Bonjour à tous, bienvenue sur le nouveau chemin de la connaissance. Les nouveaux chemins se demandent tous les jours si l'homme est la mesure de toute chose, en compagnie de Pierre Folliet, Antoine Ravon, Marianne Chassor, Tristan Grenassien et Géraldine Mosna-Savoie. À la lecture Duel, cette semaine, Georges Clès et Jean-Louis Jacopin. Quelle chance! À la réalisation, l'arbitre David Jacuboviez, avec aujourd'hui toujours au-dessus de la mêlée, Bruno Gagnère-Fontanille. 10h51, c'est l'heure à laquelle vous retrouverez Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui l'ouvrage que Jean-Louis Calvet a consacré à Roland Barthes, publié chez Flammarion. Du bon usage de la contradiction en philosophie, deuxième temps, après le duel Locke-Leibniz hier, c'est-à-dire l'empirisme contre le rationalisme, avant Sartre-Lévi-Strauss demain, c'est-à-dire philosophie existentialiste contre structuralisme, et Habermas-Rawls jeudi en désaccord sur la question de la justice sociale, aujourd'hui pour ce deuxième duel de philosophes, ce sont Socrate et Protagoras qui sont à l'honneur, c'est-à-dire la philosophie et la sophistique, ou encore vaut-il mieux être savant ou amoureux du savoir ?
Quand il faut discuter du gouvernement de la cité, chacun est admis à se lever pour donner son avis, et nul n'encourt de critique si, sans avoir rien appris, sans l'aide d'aucun maître, il s'apprête à donner un avis. Il est donc clair qu'on estime qu'il n'y a rien là qui relève d'un enseignement. Telles sont les considérations qui me donnent à penser, Protagoras, que la vertu ne s'enseigne pas. Mais quand je t'entends parler, ma conviction fléchit. Si tu peux donc nous démontrer plus clairement que la vertu s'enseigne, ne nous refuse pas cette démonstration.
Bien sûr, Socrate, je ne la refuserai pas. Je crois agréable de vous raconter une histoire. Les hommes cherchaient à se rassembler et à fonder des cités pour assurer leur salut. Mais à chaque fois qu'ils se rassemblaient en cité, comme ils ignoraient tout de l'art politique, ils se faisaient du tort réciproquement, si bien qu'ils se dispersaient de nouveau et de nouveau périssaient. Zeus, alors, envoie Hermès porter aux hommes respect et justice pour unir les cités par des principes d'ordre et des liens d'amitié. Hermès demande donc à Zeus de quelle manière il doit distribuer respect et justice. « À tous, » répondit Zeus. Et établit cette loi en mon nom que l'homme qui ne peut avoir part à la justice et au respect soit mis à mort en tant que fléau de la cité. Voilà la raison pour laquelle Socrate, les Athéniens, ne considèrent pas la vertu politique comme un don de la nature ni comme le fruit du hasard, mais que cette vertu s'enseigne et s'acquiert par l'exercice chez tout homme. Car si tu veux bien réfléchir, Socrate, à la signification des châtiments qu'on inflige aux coupables, tu y verras aussitôt le signe que les gens considèrent que la vertu peut s'acquérir.
Bonjour Dimitri Elmur.
Bonjour Alain.
Bienvenue sur le nouveau chemin de la conférence. De la connaissance. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris, Panthéon-Sorbonne, et membre de l'Institut universitaire de France, l'auteur d'un ouvrage collectif que vous avez dirigé, intitulé « La mesure du savoir, étude sur le tête-à-tête de Platon chez Vrin », et va sortir bientôt chez Vrin également, un ouvrage sur la science politique de Platon, « Savoir et gouverner ». Et à vos côtés se trouve Fulcran Tesserin. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle Andrette.
Vous enseignez la philosophie en classe préparatoire au lycée Poincaré de Nancy. Vous êtes l'auteur du « Sophiste de Platon », un commentaire publié au PUF en 2012, et ainsi que de « Langage et images » dans l'œuvre de Platon chez Vrin en 2010. Tous les éléments sont posés. Dimitri Elmur, à vous de commencer, à vous l'honneur. Qui est ce Protagoras qui raconte une histoire à Socrate pour lui expliquer que la vertu s'enseigne ?
Alors Protagoras, c'est sans doute le... Donc c'est un sophiste. C'est la première chose. Et c'est sans doute le plus grand de tous les sophistes. Et sans doute pense-t-on, notamment à partir du Protagoras de Platon, que c'est le premier qui s'est donné ce nom de sophiste. C'est-à-dire de... savant, se baladant de cité en cité dans la Grèce classique et vendant son savoir et ses leçons, on pense à prix d'or, enfin Platon dit à prix d'or, donc à la noblesse, aux jeunes gens fortunés des différentes cités dans lesquelles il se baladait. Donc c'est un sophiste particulier, d'abord parce que c'est un sophiste extrêmement intéressant, c'est ce qu'on appellerait nous un philosophe, quoi. Voilà. Et c'est le premier, voilà, le premier et un des plus grands. Voilà. Et Protagoras, pour le situer, on pense qu'il est mort vers 420 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire grosso modo 20 ans avant la mort de Socrate.
Vous dites qu'on l'appellerait un philosophe aujourd'hui, mais c'est quand même tout l'enjeu aussi de cette émission, de savoir ce qui distingue le philosophe Socrate, tel qu'il se présente en tout cas, du sophiste Protagoras.
Tout à fait. Après, quand on parle d'un sophiste, c'est toujours pareil. On est toujours obligé à la fois de tenir compte de ce que Platon en dit, et donc de l'opprobre que Platon a jeté sur ce nom pour l'éternité. Ça, c'est une première chose. Mais en tant qu'historien de la philosophie, philosophe, lecteur, on est aussi obligé de reconnaître, et d'ailleurs Platon le fait lui-même, hein, on va sûrement en parler, que certains de ces sophistes sont quand même des philosophes sérieux. C'est-à-dire c'est des gens qui avaient vraiment une pensée.
En tout cas, Fulcran Tesserin, quand on lit ce texte du Protagoras, et on va revenir hein, sur ce début qu'on vient d'entendre, interprété par les deux comédiens Georges Clès et Jean-Louis Jacopin, on y comprend que les sophistes peut-être sont raillés par Socrate, mais il les considère comme des adversaires à sa taille. Il va lui-même modifier sa position en discutant avec Protagoras.
Ah, tout à fait. Quand on lit le Protagoras, on est frappé par la qualité exceptionnelle de l'histoire qui est racontée, dont on vient d'entendre un fragment. Et quand on lit les autres œuvres de Platon, on constate qu'effectivement, ce fut la grande affaire de Socrate que de s'affronter aux sophistes, une des grandes affaires de Socrate. Et on pourrait dire aussi que ce fut peut-être la grande affaire de Platon, son disciple, et que l'enjeu a été pour lui, évidemment, de définir la philosophie par contraposition, par opposition à la sophistique. Et la rivalité a été permanente entre les deux, au point que cette rivalité a conduit à des formes de mimétisme et que lorsqu'on scrute la définition que Platon donne du sophiste, on s'aperçoit qu'il a des traits communs avec le philosophe. Et réciproquement, lorsqu'on examine le philosophe, on s'aperçoit aussi qu'il a des traits communs avec le sophiste et donc ce sont des frères rivaux qui se disputent tout le long de l'œuvre de Platon. Et Platon, manifestement par sa générosité intellectuelle, a conféré à certains des philosophes, une grandeur intellectuelle, une grandeur philosophique tout à fait considérable, même si, comme le disait Dimitri Elmure, évidemment, il a jeté aussi l'opprobre sur eux. Hein. Il a transformé le mot sophiste en un terme disqualifiant. Hein. C'est certain.
La première manche, en tout cas, de la controverse qui oppose Platon à Protagoras se résume ainsi. La vertu peut-elle ou non s'enseigner? En quoi est-ce autour de cette question-là, de la possibilité de l'enseignement de la vertu, que l'on peut bien comprendre la différence entre Socrate et Protagoras, c'est-à-dire entre philosophie et sophistique. Dimitri Elmure.
C'est un des enjeux de la sophistique. Alors, vertu, en grec, c'est arete. Quand on traduit en français par vertu, on a l'impression d'être dans un truc un peu ennuyeux. Il faut bien entendre derrière
c'est
ce
mot... C'est pas moral uniquement.
Voilà, ouais. C'est excellence. C'est-à-dire l'excellence de l'homme et du citoyen. Comment on va se comporter politiquement, socialement, comment on va prendre en main les affaires de la cité, comment on va être responsable des affaires de la cité. Hein. Donc c'est ça qu'il faut entendre par vertu arete. Et c'est ça la question de savoir si elle s'enseigne ou pas. Donc c'est une question sophistique par excellence, mais philosophique aussi, pour la simple raison que c'est ça, la marchandise que vendent les sophistes. Hein. Ils se baladent de cité en cité en prétendant être capables d'enseigner la vertu. C'est-à-dire, venez écouter mes leçons, et en échange, je ferai de vous des citoyens capables, hein, respectés, capables, influents, puissants. Hein. C'est pour ça que les leçons valent cher. Celle de Protagoras avait la réputation de valoir très cher. Et qu'elle s'adresse à une jeunesse plutôt dorée. Voilà. Donc c'est ça, l'enjeu de la vertu, voilà, c'est pas une question de morale comme nous on pourrait le penser en entendant vertu.
Hein. D'autant que le texte le montrait bien, cette réflexion sur la vertu est ancrée dans un contexte particulier qui est celui de la réflexion sur la place de l'homme au sein de la cité. C'est une réflexion qui est d'emblée politique, Fulcran Tesserin.
Oui, tout à fait, elle est politique et épistémologique parce que si la vertu s'enseigne, ça veut dire quand même qu'elle a des chances de correspondre à une forme de savoir. Et c'est aussi une position socratique que la vertu s'appuie sur la pensée et le savoir. Et par conséquent, on voit que les sophistes, Protagoras en particulier, et Socrate ont bien un point commun de ce point de vue-là. On serait tenté de les rapprocher. Si la vertu s'enseigne, c'est donc qu'elle doit correspondre à une forme de savoir. Et on voit du coup que le débat devient de plus en plus intense entre l'un et l'autre. Hein. Et clairement, si elle s'enseigne, si elle donne, comme Dimitri Elmure l'a signalé à l'instant, influence et pouvoir dans la cité, c'est que cette vertu qui s'enseigne est aussi évidemment une vertu qui s'inscrit dans ce contexte politique qu'est la démocratie athénienne, où le pouvoir appartient à celui qui est maître de la parole.
Mais c'est d'ailleurs la première objection que Socrate fait à Protagoras. Il lui dit bien que la politique est l'affaire de tous et pas des seuls spécialistes. Donc du coup, c'est pas une matière à enseignement. La question, c'est de savoir est-ce que l'homme serait naturellement politique. Et c'est en cela que Protagoras répond avec le mythe qui explique bien que l'homme a été mal doté par la nature et que la vertu relèverait d'une forme de culture qui vient pallier sa déficience naturelle.
Non, parce que justement, dans le passage qui a été lu du Protagoras, on a la partie, disons, anthropologique du mythe ou anthropocentré. Il y a tout un passage qui n'a pas été lu, mais on ne peut pas tout lire, dans lequel on explique les dons divins. L'histoire commence ainsi, c'est une histoire très célèbre, mais elle vaut le coup d'être racontée. On va créer l'humanité, il y a deux personnes qui sont là pour ça, deux titans, Épiméthée et Prométhée. Épiméthée répartit un petit peu en tout le règne vivant. Donc, alors, il va donner des ailes aux animaux petits, des griffes aux animaux plus gros. Il va donc balancer, enfin équilibrer les races, donner une progéniture très nombreuse à ceux qui sont très faibles, une progéniture très faible à ceux qui sont très forts, etc. Pour équilibrer, grosso modo, le règne de la nature. Il fait tout ça très bien. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il oublie les hommes. Et donc, les hommes se retrouvent avec rien. Donc démunis, nus. Alors le texte dit nus, sans découvert, sans chaussures, sans ils sont à mécanoï, sans moyen de faire quoi que ce soit. Et du coup, Prométhée va voler le feu d'abord pour permettre aux hommes d'avancer un petit peu dans leur existence et d'avoir des techniques, etc. Et va chercher à voler effectivement l'art politique, etc., pour leur permettre de subsister. Donc tout ça pour dire qu'effectivement l'humanité telle que Protagoras la conçoit naît d'un oubli. Et ce faisant d'ailleurs, Protagoras réécrit le mythe de l'âge d'or d'Hésiode. Donc Protagoras lui-même se situe par rapport à une tradition qui vient avant lui, et il l'a réécrit de manière différente, c'est-à-dire que l'homme est démuni.
Mais en présentant l'homme comme étant démuni, est-ce que Protagoras ne fait pas l'effort de se mettre à hauteur de l'homme, justement dans son imperfection, dans son côté peut-être qui n'est, disons, insuffisant ou presque fini, et donc de ce fait présente une pensée qui est beaucoup plus à la mesure de l'homme que Socrate, qui lui, parce qu'il compare l'homme selon une certaine idée, un certain modèle, va le considérer non pas dans ses imperfections et sa contingence, mais dans l'idée qu'il s'en fait.
Mais d'où son succès d'ailleurs, d'où le succès du mythe. Hein. C'est pour ça que le mythe de Protagoras, c'est un des textes les plus célèbres de Platon, mais on peut quand même considérer qu'il est de Protagoras. Enfin, on n'a pas parlé de ça, mais voilà, je ne sais pas si Grand Estrac est d'accord avec ça, mais on pense quand même que c'est du Protagoras.
C'est probablement du Protagoras, mais Platon a dû prêter sa plume au génie de Protagoras, et peut-être un peu plus que sa plume. C'est très délicat à déterminer. En tout cas, on voit que Platon s'approprie cette idée et qu'il la déploie de manière absolument remarquable. La fragilité de l'homme, cette anthropologie très moderne, hein, un homme démuni, un homme quasiment sans nature. L'homme qui naît est un homme sans nature, un homme qui naît de la transgression aussi, puisque Prométhée a volé le feu. Donc il a enfreint l'ordre de Zeus. Il a dérobé, et donc on sent qu'il y a dans cette anthropologie quelque chose qui est en résonance avec notre modernité. C'est pour ça que c'est un texte, je crois, très, très parlant pour nous. Et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que dans le fragment que vous avez lu, autant la distribution du don technique est une distribution inégalitaire au sens où seuls certains disposent de cette aptitude à la technique. Il n'y a que quelques forgerons, que quelques charpentiers, etc. Mais tout le monde n'est ni forgeron ni charpentier, évidemment. En revanche, quand Zeus décide finalement d'aller porter secours à cette humanité qui s'achemine vers sa propre destruction, il envoie l'aïdos, donc la pudeur ou la honte, et la diké, la justice, à tous. Il le distribue à tous.
Mais il le fait parce que sinon les hommes...
Oui,
s'entretue. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que l'homme est démuni, d'accord. On lui donne les techniques, donc Athéna, enfin toutes les techniques assez standards. Et effectivement, là, la répartition est inégalitaire parce que tout le monde n'est pas forgeron. Bon, on pourrait dire, très bien, les hommes s'en sortent bien. Ils ont les techniques, ils ont le feu, ils peuvent se battre contre les animaux qui sont agressifs, parce que l'idée est que. Voilà. Mais non, ça suffit pas parce que les hommes, en s'associant en cité. n'arrivent pas à se supporter les uns les autres. Hein, c'est ça que raconte le mythe, ça, c'est une phrase assez... Mais en tout cas, ils n'arrivent pas à vivre pacifiquement. D'où le second don, hein, qui est donc justice et vergogne, pudeur, respect, voilà, etc., qui permet aux hommes, et qui lui est réparti effectivement égalitairement, et qui permet aux hommes de cohabiter.
Voilà, on voit que c'est quand même une réflexion sur les moyens qu'on va donner à l'homme pour lui permettre de vivre ensemble et d'apprendre. Et là, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, d'apprendre. Il y a vraiment un apprentissage de la vertu. La question étant de savoir qui va être le maître et qui va être l'élève.
Ça fait 4 jours que je me casse le cul et j'ai toujours rien appris.
Beaucoup appris.
Tu parles, j'ai appris à poncer les planches, à laver vos voitures, à repeindre vos maisons et vos palissades. Eh ben, ça me fait une belle jambe.
À se fier aux apparences.
Eh ben, j'en ai ras-le-bol, je rentre chez moi.
Daniel-san, Daniel-san.
Quoi ?
Reviens. Montrez comment poncer.
Je peux pas, j'ai le bras en marmelade.
Maintenant, lustrez voiture, lustrez et frottez.
Lustrez et frottez.
Lustrez et frottez, hein ? Lustrez. Frottez. Concentrez-toi, regardez mon œil. Bloquez ta main, pousse à l'intérieur. Lustrez. Frottez. Lustrer, frotter. Maintenant, peindre palissade. Monter, descendre. Monter, descendre. Monter, descendre. Maintenant, repeindre la maison. Gauche, droite. Bloquer, poignet. Gauche, droite. Gauche, droite. Hein? Montrer, lustrer, frotter. Aïe! 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 Hey! Montrez, poncez, parquet. Ah! Hey! 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 Bien, regardez dans les yeux, bien regardez les yeux. Demain, revenir.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Adèle Van Rett.
Fulcrant, hein, ce que nous dit Protagoras dans le texte de Platon, c'est que la différence entre l'élève et le maître est en fait une différence de degré. On n'est pas des maîtres par nature et des élèves par nature. Nous pouvons apprendre à devenir vertueux, bien que la vertu ne fasse pas l'objet d'un enseignement en tant que tel. On vient d'entendre un extrait de Karate Kid ici qui illustre à merveille en réalité l'apprentissage de la vertu tel que le décrit Protagoras. Pour le dire clairement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en faisant certains gestes que l'on va développer des compétences qui vont nous permettre ensuite de faire advenir la vertu. Et le maître dans l'extrait le dit bien, il dit voilà, il fait faire à son élève des gestes du quotidien, poncer le parquet, nettoyer la voiture, je sais pas quoi avec le mur. Et c'est en refaisant ces gestes encore et encore chaque jour que l'élève va développer en lui une capacité de pouvoir ensuite reproduire des mouvements qui eux sont propres au karaté. Cet enseignement par degré, c'est quand même une conception qui est très différente de celle de Socrate.
Alors, oui et non, parce que quand on regarde le programme éducatif de Protagoras, qu'il détaille après l'extrait que nous avons lu, il signale, comme dans l'extrait aussi du film, l'apprentissage indirect de la vertu. C'est-à-dire que la vertu s'enseigne aussi par le maître d'école, qui apprend les lettres, hein, qui fait apprendre les lettres, c'est-à-dire qui fait apprendre à lire à ses élèves, mais qui du même coup les oblige à apprendre les textes de la tradition grecque, donc les grands poètes épiques, Homère en particulier. Et puis il y aura le maître de musique qui va apprendre évidemment à jouer de la sitar, mais qui du même coup va faire apprendre aussi aux élèves les textes de la tradition lyrique, hein, Pindare en particulier. Et donc c'est à l'occasion de ces apprentissages que du même coup des exemples, des modèles, des représentations de la vie collective sont enseignés, sont inculqués, pourrait-on dire, à ces enfants. Et cet apprentissage, d'ailleurs, se poursuit tout le long de la vie, puisqu'ensuite, dans l'enseignement supérieur, ce sera, pour ceux qui en ont les moyens, les sophistes, qui poursuivront l'enseignement scolaire. Et sinon, ça sera quand même l'ensemble du peuple qui formera les citoyens. Donc, le rapport à Socrate est le suivant, c'est que Socrate aussi insiste sur, dans le programme de la République, par exemple, alors évidemment on peut discuter sur le fait que la République représente des positions socratiques, hein, peut-être représente-t-elle davantage des positions platoniciennes, mais toujours est-il que
Dans La République, au livre 3, on insiste également sur la vertu éducative de la musique et sur la vertu éducative de la poésie. Alors évidemment, une poésie réformée qui n'est pas forcément celle qui était en vigueur dans l'Athènes du 4e et du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais néanmoins, on voit que dans les deux cas, il y a une apologie, disons, de l'éducation par les textes et par la musique.
Mais alors, où est le problème dans ce cas ? Quelle est, où est l'opposition entre Socrate et Protagoras sur cette question-là ?
Elle est quand même claire sur un point, hein, c'est que d'abord, le plus grand apprentissage de la vertu, c'est-à-dire la question qui se pose par rapport à ce que Fulcrantes vient de dire, c'est la question exacte que Socrate va poser à Protagoras. Mais à quoi tu sers, finalement ? Parce que c'est bien, si le maître de musique, il apprend un peu la vertu, si le pédagogue, il apprend un peu la vertu, si le grammatiste, il apprend aussi un peu... Mais finalement, Protagoras, il est là, pourquoi il se fait payer ? Mais il se fait payer
Pour enseigner que les choses doivent être enseignées, peut-être.
Oui, d'accord, enfin, ça fait quand même cher la leçon, mais ce que je pense, c'est que c'est... Non, ce que... mais Protagoras répond, ça, il n'a aucun problème avec ça. Hein. Mais il dit, mais moi, j'apprends à devenir un citoyen. Et ce qu'on comprend, c'est que, comme beaucoup de sophistes, il apprend aussi l'art de parler, l'art d'argumenter. Et c'est là, d'ailleurs, où on peut connecter à certaines choses qu'on sait par ailleurs de Protagoras sur ses écrits. Parce qu'on n'a pas du tout parlé des écrits du Protagoras de l'histoire, le vrai Protagoras, celui qui n'est pas... Enfin, celui de Platon qui est peut-être vrai, mais enfin, voilà. C'est-à-dire
le fait que Protagoras n'est pas qu'un personnage dans les dialogues
exactement,
de Platon.
Voilà.
Il a existé et écrit, même
voilà.
si bon.
Il a existé, il est né à une certaine époque, il est mort en 420, on pense, etc. Bon. Il a eu peut-être comme maître Démocrite, à moins que Démocrite ait été son élève. Bon, il y a plein de mystères. Ouais. Il a été très riche ou alors très pauvre. Il a porté des. On pense qu'il a inventé un truc pour porter le bois.
Oui, le portefeuille.
Le portefeuille. Bon, etc. Il y a plein de mystères autour de lui. Mais il a écrit des bouquins. On ne sait pas très bien comment se présentaient ces bouquins. Et il y a des hypothèses assez fortes, notamment la grande hypothèse de Untersteiner, qui est un grand philologue italien, qui dit que le grand livre de Protagoras se divisait en deux, la vérité en tome 1 et sur la nature des dieux en tome 2, correspondant à la mesure de toute chose. Et bref, peu importe, Protagoras a appris aussi dans ses livres à argumenter, et à argumenter pro et contra.
Mais c'est pour ça que Socrate est quand même de mauvaise foi quand il lui demande à quoi il sert. On peut retourner la question à Socrate. À quoi sert Socrate dans la cité ?
Ah ben alors, c'est une question que les Athéniens se sont précisément posée. Et on pense bien que la raison pour laquelle ils l'ont mis à mort, c'est qu'ils n'ont pas vu de différence entre Socrate et Protagoras ou d'autres.
Fulcrantes hein. Esringues.
Oui, oui. Il y a une différence fondamentale, c'est que, d'abord, le rapport à l'argent. Socrate ne se fait pas payer. Protagoras se fait payer.
Platon.
Selon Platon.
Parce que c'est aussi une construction.
C'est peut-être une construction.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que Socrate vivait au crochet.
Ah voilà, oui, tout à fait.
Un certain nombre de ses élèves.
Tout à fait, tout à fait. Ben, Aristippe le dira d'ailleurs, parce qu'Aristippe fut un des disciples de Socrate et fut le seul des disciples de Socrate à se faire payer. Il dira, oui, mon maître ne se faisait pas payer, disons, sur la base d'un contrat, mais il se faisait payer implicitement puisqu'il recevait des cadeaux dont il acceptait une petite partie pour sa propre subsistance. Et il est vrai que les fréquentations de Socrate, qui était de tout ordre, mais qui quand même lui permettait d'accéder à la partie la plus élevée de la société, oui. Eh bien, il en bénéficiait de ses fréquentations. Donc, dans une certaine mesure, Socrate était pauvre, était modeste, mais du moins avait-il des amis qui pouvaient veiller au grain et le dépanner en cas de coup dur. Bon, ce qui est quand même très confortable à une époque où l'existence est quand même extraordinairement précaire pour toutes sortes de gens. Donc oui, il y a bien sûr cette nuance à faire, je crois. Oui,
mais ça, c'est une distinction quasiment biographique du statut de l'un et de l'autre.
Je pense qu'elle est absolument pas biographique, je pense qu'elle est fondamentale. L'idée même que le savoir puisse être objet de commerce est une idée qui, pour Platon, et pour la manière dont Platon comprend Socrate, est fondamentalement impensable. Faire échange d'argent, quand on prétend enseigner, quand on prétend transmettre, faire naître, comme on voudra, du savoir, c'est penser que le savoir est monnayable, que le savoir est une marchandise. C'est-à-dire, je veux pas dire ça en termes trop modernes, mais l'idée est vraiment là.
Non, mais heureusement que vous êtes platonicien, parce que vous savez que vous n'êtes pas payé pour cette émission.
Non, mais, comment mais...
C'est une des raisons pour laquelle on n'a pas invité de sophiste.
Voilà. Oui, mais il arrive à l'État de nous payer aussi, donc notre position n'est pas parfaitement claire.
C'est propre, ça ? Elles étaient déjà encore plus sales tout à l'heure.
Oui.
Et maintenant, tu trouves qu'elles sont propres ?
Non.
Non. Alors, tu as frotté pour pouvoir les nettoyer ?
Non.
Alors, qu'est-ce qu'il faudra que tu fasses ?
les frotter.
Comment?
Avec le savon.
Avec le savon, oui. Et l'éponge.
Oui.
Hein?
Oui.
Et tu ramènes des mains toutes blanches, hein, toutes propres.
Mais les éponges, j'arrive pas à les attraper.
Regarde, derrière toi, il y en a une. Là.
Deux.
Voilà. Et tu ne claques pas la porte en sortant. Hein? Oui. Tu peux laisser ouvert, d'ailleurs. Comme ça. Voilà.
Je vais
te laver les mains, s'il te plaît.
Le plus important dans notre métier, c'est d'être capable d'éprouver par tous les moyens si la pensée du jeune homme donne naissance à de l'imaginaire, c'est-à-dire du faux, ou au fruit d'une conception, c'est-à-dire à du vrai. Pourtant, j'ai eu au moins cet attribut qui est propre aux accoucheuses, je suis impropre à la conception d'un savoir. Et ce que beaucoup m'ont déjà reproché, à savoir que je questionne les autres, mais que moi-même je ne réponds rien sur rien parce qu'il n'y a en moi rien de savant, c'est un fait véritable qu'ils me reprochent. Le fait est que je ne suis moi-même absolument pas quelqu'un de savant. Pas plus qu'il ne m'est survenu, né de mon âme, de découvertes qui répondent à ce qualificatif. Mes partenaires n'ont jamais rien appris qui vienne de moi, mais ils ont trouvé eux-mêmes, à partir d'eux-mêmes, une foule de belles choses, et en demeurent les possesseurs. Mais il y en a quelques-uns, tête et tête, qui ne me paraissent rien porter. Constatant qu'ils n'ont aucun besoin de moi, je fais pour eux, en toute obligeance, l'entremetteur. Et je réussis parfaitement à deviner de qui il leur serait profitable de se faire les partenaires. Beaucoup parmi eux, j'en ai fait cadeau à Prodicos, et beaucoup à d'autres hommes d'un savoir plus qu'humain.
Quand j'étais gosse, haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse.
Maintenant je sais, c'est Jean Gabin que vous êtes en train d'écouter sur France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h28, c'est le deuxième temps de notre série d'émissions consacrée au duel de philosophes. Et aujourd'hui, Socrate contre Protagoras avec Dimitri Elmure et Fulcran Tesserin.
Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Je sais que je ne sais jamais, dit Jean Gabin. Alors si la fameuse phrase qu'aurait dit Socrate, je sais que je ne sais rien, finalement on ne la trouve pas dans les dialogues de Platon et Dimitri Elmure. En revanche, c'est lui qui fait la distinction dans l'extrait du tête-à-tête que je viens de lire entre être savant, enfin il dit qu'il n'est pas un savant, mais qu'il est en revanche, ce qui s'apparenterait à un amoureux du savoir. Et c'est en fait avec cette distinction savant et amoureux du savoir que se joue une autre des différences explorées dans le tête-à-tête entre la philosophie et la sophistique.
Oui, tout à fait. Alors, deux choses. La première sur cette fameuse phrase qui correspond effectivement à l'étiquette.
Je sais que je ne sais rien.
Alors voilà, ouais. On trouve cette phrase, hein, je sais que je ne sais rien. On ne trouve pas la position durcie qui correspond à la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien.
D'accord.
Qui est un durcissement de l'inscience socratique, de la non-science socratique, qui a eu lieu, on le pense, pendant une autre histoire du platonisme, à savoir quand l'académie platonicienne est devenue sceptique. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, c'est pas un hasard que le tête-à-tête est devenu le textbook, comme on dit, c'est-à-dire le manuel de platonisme. Hein, et que donc, on a trouvé dans Socrate la position, donc Arkésilas était le premier à le théoriser, Arkésilas de Pitane, on a trouvé dans Socrate l'expression même du platonisme, c'est-à-dire, effectivement, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, le savoir est inaccessible, etc. etc. On ne trouve pas ça dans Platon. Le Socrate de Platon n'est pas un sceptique, il sait plein de choses. Hein. Et notamment, il sait la différence qu'il y a entre savoir et opinion, même s'il ne nous l'explique pas toujours fort clairement. Mais voilà. Donc, alors, sur la distinction savoir, amour du savoir, sur ce texte de la maïeutique, c'est un texte fantastique, que vous avez très bien lu d'ailleurs. C'est un texte unique. Encore une fois, c'est un texte très connu. Je pense que tout étudiant de terminale a déjà entendu parler de Socrate l'accoucheur ou le maïeuticien. Enfin, j'espère. Et c'est le seul texte, non seulement dans les dialogues, mais je pense dans tous les textes qui nous sont parvenus autour de Socrate, il y en a plein d'autres que de Platon, qui parlent de Socrate comme d'un accoucheur.
C'est le seul texte oui, où il fait référence à Socrate comme accoucheur. Alors que c'est ce qu'on, effectivement, c'est une des premières choses qu'on dit sur Socrate, c'est un accoucheur.
C'est une construction platonicienne, d'accord. On pense. Il est fort probable, j'en sais rien, là je spécule complètement, que Socrate n'ait pas spécialement utilisé ce modèle pour comprendre son propre art. Ça, c'est Platon. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles Platon a pu le faire, dont certaines sont spéculatives et très intéressantes.
Mais alors, que signifie le fait, cette revendication de Socrate, de dire qu'il n'est pas un savant? Pourquoi tient-il à dire cela, Fulcran Tesserin?
Alors, il dit qu'il n'est pas un savant, mais entendons-nous, il confesse quand même la possession d'un art, hein, qui est celui, justement, même de la maïeutique. Donc, si la techné est une science, dans une certaine mesure, il a un savoir qu'on pourrait appeler négatif, en tout cas un savoir qui met à l'épreuve le savoir des autres. Hein. Donc, de ce point de vue, comme le disait tout à l'heure Dimitri Elmure, il a aussi un savoir de la différence entre le savoir et l'opinion. Donc il a un savoir, pourrait-on dire, réflexif. Donc, c'est pour ça que je partage tout à fait le point de vue de Dimitri Elmure qui nuance l'inscience socratique. C'est une inscience qui, effectivement, cohabite avec énormément de savoir. Hein. Mais à la différence du sophiste, le sophiste, lui, je dirais, à la limite, n'accorde aucune valeur à la connaissance négative, c'est-à-dire la reconnaissance de l'ignorance ou la reconnaissance du faux. Pour une raison simple, c'est que pour le sophiste, à la limite, il n'y a pas de faux. Hein. Donc,
puisque
tout savoir,
c'est dans ce texte qu'on trouve cette fameuse phrase, l'homme est la mesure de toute chose. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai en soi ou de faux en soi.
Il n'y a ni vrai en soi ni faux en soi, mais même il ne peut même pas y avoir rapport à quelque chose de faux, puisque chacun est lié à ses propres apparences, que ses apparences sont la seule chose qu'il puisse dire et qu'il dit avec certitude, et il ne dit rien d'autre que ses apparences qui se manifestent à lui. Par conséquent, il est rivé au vrai dans la perspective qui est celle de Protagoras. Donc Protagoras est le défenseur, pour le coup, d'un savoir terriblement positif. Et si on devait opposer les deux, on dirait, sans trop forcer le trait, que Platon est plutôt Socrate est plutôt du côté d'un savoir qu'on appellera négatif et Protagoras, lui, défend la positivité pleine, sans faille, du savoir.
Pour rebondir là-dessus, c'est terriblement positif et c'est justement ça le problème. Ce qui caractérise le savoir de Socrate, pour rentrer un peu dans le détail, c'est qu'il est par essence interrogatif. Et c'est une des choses que Socrate ou Platon reproche aux sophistes. Les sophistes, ils font des grands, grands discours. C'est pour ça, d'ailleurs, que Socrate veut toujours forcer le sophiste à répondre à des questions. Parfois, il le laisse un peu, pour notre plus grand plaisir, déballer son savoir, confère le mythe de Protagoras.
Très long monologue.
Voilà, c'est une macrologia, comme on dirait. C'est-à-dire un grand discours, un macros logos. Voilà. Mais la raison pour laquelle Socrate préfère la brachylogie, hein, le brachylogos, justement le discours court, qui procède par question-réponse, c'est parce que si on laisse le sophiste dérouler, il n'y a pas de point d'interrogation. Tout est magnifiquement assertorique, affirmatif, etc. Mais ça ne convient pas à un Socrate et à un platonicien en général. Il faut des questions.
Alors, un mot encore sur le texte dont j'ai lu un extrait. C'est qu'on trouve quand même à la fin ce paragraphe assez surprenant où il s'adresse à tête-à-tête. Il dit, mais bon, mon métier, mon activité est de faire naître à eux-mêmes certaines personnes ou leur faire accoucher d'un savoir. Mais il y a des gens, dit-il, qui ne portent rien en eux. Et là, ça fait un lien direct avec ce qu'on disait en début d'émission sur la question dans le Protagoras, des vertus politiques qui s'enseignent ou non. Il semble reconnaître une forme d'inégalité de nature.
Ah oui.
C'est-à-dire que tout le monde, on n'est pas tous égaux face à, face au, à ce savoir qu'est la philosophie. Et donc, ça veut dire qu'en fait, la maïeutique est complètement étrangère à la réminiscence qu'on avait chez le Ménon. On avait l'impression qu'il suffisait d'être bien questionné par Socrate pour accoucher de ce qu'on savait sans le savoir.
Je ne suis pas certain que dans le Ménon, tout le monde soit capable de la réminiscence et d'une même réminiscence. Bon, il faudrait regarder de près le texte. Mmh. Mais effectivement, je crois qu'une grande différence entre Protagoras et Socrate, c'est que Socrate ne partage pas, disons, l'optimisme protagoréen qui voudrait que tous les hommes bénéficiant des mêmes dispositions puissent participer à un degré ou à un autre à la vertu. Socrate et Platon croient fondamentalement à l'inégalité des natures. Et donc ça revient d'ailleurs à une question politique.
Voilà.
Est-ce qu'il peut y avoir une démocratie quand les hommes sont par nature inégaux ? Mais comprenons, ils sont par nature inégaux non seulement parce qu'ils ont des compétences peut-être ou des habiletés qui sont différentes, mais c'est pas ça le fondamental. Ce qui est fondamental, c'est qu'ils sont inégaux parce qu'ils n'ont pas les mêmes désirs. Mmh. Hein, et ils n'ont pas la même orientation vers le savoir. Et les fruits secs, le partage du travail auquel procède Socrate, quand il dit certains doivent aller chez les sophistes et je les envoie chez les sophistes, chez Prodicos et d'autres grands hommes, à savoir.
Oui, en fait, c'est ce qu'il dit, hein,
c'est Protagoras.
Ceux qui ne portent rien en eux, on les envoie chez les sophistes.
On les envoie, et les autres, je les garde pour moi. Je les garde pour moi, non seulement parce qu'ils ont peut-être des germes de savoir que je vais permettre de développer, mais encore parce qu'ils ont véritablement le goût du savoir. Et ils ont une curiosité que je vais mettre à profit dans la discussion que je vais avoir avec eux. Hein. Et du reste, dans les trois hypothèses qu'il avance dans le dialogue qui porte son nom, eh bien, est réduit au silence. Mais peut-on dire que c'était un fruit sec ? Peut-on dire qu'il était totalement stérile, même si chacune des hypothèses qu'il a avancées a été détruite par le dialogue qu'il a
parce
eu
Parce que l'enjeu, quand même, disons-le, du tête-à-tête est de savoir, enfin, c'est la question que pose tête-à-tête, est-ce que la science est réductible à la perception ? C'est la première des questions.
Qu'est-ce que la science ?
Qu'est-ce que la science ?
La science et la perception, c'est la première réponse de tête.
Voilà.
Et c'est là où Platon ferraille avec le relativisme protagoréen, puisqu'il fait une implication. Si la science est la sensation, alors... comment dire, Protagoras a raison, l'homme est la mesure de toute chose, ce que je sens, parce que je le sens, c'est vrai. Et si Protagoras a raison, alors Héraclite a raison. Parce que ce qui justifie, là c'est un peu complexe, mais ce qui justifie la théorie Protagoras selon Platon, c'est la conception héraclitéenne du monde.
Alors, pour comprendre ce que vous êtes en train de dire, je propose qu'on écoute Protagoras lui-même, si j'ose dire, expliquer cette fameuse affirmation selon laquelle l'homme est la mesure de toute chose.
La vérité, je le déclare en effet, la formule en est ce que j'ai écrit. Chacun de nous est la mesure de toutes choses, de celles qui sont comme de celles qui ne sont pas. Les différences qu'il y a entre celui-ci et celui-là se comptent toutefois par milliers, pour cette raison précise que autres sont et apparaissent les choses à celui-ci, autres à celui-là. En outre, l'existence d'un savoir et d'un savant, tant s'en faut que je la nie. Mais seulement, celui que j'appelle un savant, c'est l'homme éventuellement capable d'opérer, pour tel ou tel d'entre nous, tel changement qui lui fasse apparaître et être bonne les choses qui actuellement lui apparaissent et lui sont mauvaises. Rappelle-toi ce qui se disait de l'homme qui se porte mal et pour qui ce qu'il mange apparaît et est amer, tandis que cela est et apparaît à l'opposé pour celui qui se porte bien. Or, à aucun de ces deux hommes, il ne faut attribuer un savoir supérieur à celui de l'autre. Ce n'est pas possible, en effet. Et il ne faut pas non plus accuser d'ignorance le malade parce qu'il en juge comme il fait, tandis qu'on attribuerait au bien portant le savoir parce qu'il en juge différemment. Mais, à mon avis, tandis que certains, en raison de la manière d'être d'une âme en mauvaise condition, portaient des jugements qui sont apparentés à ce que leur âme est elle-même, une âme en bonne condition a fait porter des jugements d'une nature différente. Ce sont là précisément les représentations que, par ignorance, certaines gens appellent vraies. Quant à moi, je les appelle meilleures les unes que les autres, mais elles ne sont nullement plus vraies.
France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Vendrette.
Euh, Alors, on s'est tous accordés à dire en studio que la voix de Georges Clès incarnait parfaitement celle de Protagoras. Hein, et Dimitri, vous êtes souvenu que c'était la voix de Palpatine aussi en français, l'empereur de la guerre des étoiles.
Absolument.
Ce qui nous conduit hors de ce texte. Mais si on y revient, l'apologie de Protagoras, c'est comme ça qu'on appelle le texte dont on vient d'entendre un extrait. En réalité, d'abord, Protagoras est ramené des morts par Platon.
Oui, c'est un des textes les plus fantastiques du Tête-à-tête et peut-être de Platon, et qui prouve quelque chose d'essentiel sur la manière que Platon a d'argumenter par rapport à ses adversaires.
Voilà.
Hein, parce qu'on n'a pas beaucoup dit ça, mais pour Platon, faire de l'histoire de la philosophie, c'est pas raconter comment les autres ont, comme peut le faire Aristote par exemple, ou Hegel en un certain sens, comment les autres théories ou doctrines ont amené à la sienne propre. C'est avoir des interlocuteurs. Et la manière que Platon a d'avoir des interlocuteurs, c'est là où c'est génial, c'est qu'il fait revenir des morts Protagoras. Ouais. Donc on a toute une salle d'arguments contre le relativisme protagoréen. Et Socrate dit, non mais bon, Protagoras, c'est quand même pas n'importe qui. S'il était là, il nous dirait, non mais c'est des trucs d'enfant là. Hein, moi, voilà comment je vous réponds. Et pour le critiquer, il faudra donc répondre à la réponse de Protagoras. C'est donc une apologie au sens d'apologia, au sens de l'apologie de Socrate, c'est-à-dire au sens d'une défense de Protagoras. Et il se défend très très bien.
Il se défend très bien. Et ce qu'il y a de remarquable dans cette apologie, c'est qu'elle est introduite par des considérations qui rappellent le Phèdre. Dans le Phèdre, il fait la critique de l'écriture. Et il dit, ben voilà, le propre d'un écrit, c'est qu'il est abandonné par son père, il circule partout sans avoir de défenseur. Et Protagoras se trouve être dans cette situation finalement de ne pas être en mesure de défendre son discours. Et donc, Platon prête finalement à Protagoras des considérations qui sont celles qu'il a développées en partie dans le Phèdre. Et Socrate prête à Protagoras. Et donc, du coup, il va venir au secours du logos de Protagoras. Protagoras étant mort, il ne peut plus le défendre. Sans doute a-t-il écrit une œuvre qu'il illustrait, mais évidemment, il n'y a pas la possibilité de répartir aux objections qui lui ont été faites. Donc, Socrate va prendre la parole pour Protagoras. Et c'est évidemment une défense absolument fantastique.
Et ça dit quelque chose, d'ailleurs, de la manière d'argumenter de Platon.
Ouais.
C'est-à-dire que Platon, quand il critique un interlocuteur, prédécesseur, je préfère un interlocuteur, même s'il vient avant, le critique par le haut. C'est ça qui est aussi, il ne le critique pas, on est dans une vague contradiction uniquement apparente. Non, il prend le système ou la pensée de l'eau dans sa force et il la critique. Alors justement, pour le fond maintenant, l'homme est la mesure de toute chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon la manière que Platon a de comprendre cette position philosophique, c'est telle chose m'apparaît, telle elle est. Ce micro est noir, il est noir parce qu'il m'apparaît noir. Il apparaît à quelqu'un d'autre gris. Il est gris pour cette autre personne.
Donc il n'y a pas de distinction entre l'essence et l'apparence?
Non. Voilà, l'apparaître et l'être, l'être, c'est la chose telle qu'elle m'apparaît.
Hein, ce qui du coup complique les choses d'un point de vue politique, si on y revient, parce que c'est pas sans lien avec la discussion du début, parce que justement, si chacun a son vrai, si les choses sont telles qu'elles apparaissent à chacun, comment fait-on pour gouverner une cité?
Mais vous avez vu la fin du texte. La fin du texte est quand même très très difficile, elle est très compliquée. La question de savoir comment on articule dans la pensée de Protagoras sa théorie politique et sa théorie épistémologique, c'est-à-dire son relativisme, est une question complexe, hein, sur laquelle, moi, je ne suis pas sûr de savoir exactement comment faire. Hein. Il est possible que l'épistémologie de Protagoras, ça soit la théorie de la démocratie athénienne, hein, le droit égal de chacun à parler, l'égal dignité de chaque citoyen devant la loi, etc., transportée au champ de l'épistémologie. Mais on n'en sait pas grand-chose. Après, la fin du texte qui a été lu est fantastique. Protagoras dit, non mais moi, je ne fais pas... Je ne rends pas les choses plus vraies, moins vraies. Moi, on me paye pour, dans une cité, rendre les choses de moins bonnes à meilleures. Meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est évidemment une question complexe parce qu'on se demande si ce meilleur est à son tour relatif ou s'il a un fondement objectif. Et moi, il me semble, peut-être suis-je un peu dogmatique là-dessus, que dans le texte de l'apologie, c'est-à-dire de la défense par Socrate de Protagoras, il y a un terme qui est introduit, qui n'était pas dans les exposés antérieurs et que celui de disposition d'exis. Et l'idée qui est sous-jacente, me semble-t-il, c'est que les représentations que l'on a, même les apparences, dépendent en partie de notre constitution subjective, hein, de notre d'un certain nombre de dispositions que nous possédons. Et la parole du sophiste est celle qui peut agir sur ces dispositions
hein, de telle sorte que ça modifie en conséquence les apparences qui vont se manifester à nous. Hein. Vous modifiez la subjectivité ou la constitution de cette subjectivité par la parole, et du même coup, évidemment, puisque l'apparence dépend de cette subjectivité, elle-même, à son tour, va être modifiée. Et donc, l'idée, me semble-t-il, chez Protagoras, c'est que, dans une certaine mesure, il y a une objectivité de ces dispositions. C'est-à-dire qu'on peut dire, dans une certaine mesure, quelles sont les bonnes dispositions pour certains et les mauvaises dispositions pour d'autres. On peut donc montrer comment certains, peut-être, auraient intérêt pour eux-mêmes à avoir telle ou telle disposition parce que ça pourrait, mettons, accroître leur puissance ou leur conatus dans une perspective qui serait pour le coup spinoziste, etc., mais qui est évidemment étrangère au texte. Mais on pourrait imaginer un développement de ce texte dans cette direction-là.
Voilà. C'est ça le problème, c'est que justement, si on... est-ce que le relativisme de Protagoras est parfaitement cohérent ? On n'en est pas certain. C'est un subjectivisme, hein, ce qu'on disait sur l'apparence et l'être, etc. C'est un relativisme des valeurs, aussi. Hein, donc c'est un relativisme épistémologique, c'est un relativisme des valeurs. Simplement, comme le disait Fulcrand Estrègue, on retrouve quand même toujours la nécessité, à un moment ou à un autre, de se référer à ce que nous, on appelle une objectivité.
Et alors, précisément, qu'est-ce que Socrate objecte à Protagoras, justement, pour essayer de se protéger contre ce relativisme qui peut lui être dangereux?
Il va lui objecter notamment, parmi beaucoup de choses, hein, lui objecter notamment que la position de Protagoras est contradictoire.
Donc il s'en tient à une argumentation de forme. C'est-à-dire que sur le fond, il ne va pas lui affirmer, même si c'est lui qui pose les questions, substituer au relativisme une espèce d'objectivité, justement.
Il y a une argumentation de forme qui tient évidemment à la cohérence logique. Peut-on être relativiste? Et est-ce que l'affirmation de cette relativité est elle-même relative? Bon, évidemment, ça c'est un problème logique fondamental, mais il y a des problèmes empiriques tout simples. On parle une même langue. Comment se fait l'accord sur le sens ? Est-ce que la signification des mots est livrée aux caprices des individus ? Et si on s'entend, si on communique, c'est bien qu'il y a une objectivité de la signification, du moins une intersubjectivité de la signification. Et cette intersubjectivité de la signification, alors elle pourrait être reprise dans un contexte relativiste,
ouais,
en disant que c'est le groupe.
Contre...
D'accord, mais ça limite l'étendue du relativisme individuel. Donc vous voyez, vous avez déjà une première limite qui serait limitée par une subjectivité collective, disons, peut-être. Et encore celle-ci, comment fonctionne-t-elle ? N'a-t-elle pas besoin, finalement, à un moment donné, d'accorder les mots aux choses ?
Ça permettrait au relativisme de ne pas donner lieu à un scepticisme.
Absolument. Alors ça, on est presque certain que le relativisme de Protagoras n'était pas un scepticisme, bien que plus tard, Sextus Empiricus, on va le reprendre, va avoir des liens très forts entre le relativisme et le scepticisme de ce point de vue-là. Mais je pense, pour revenir à votre question de la réfutation elle-même, elle passe aussi par les implications que Socrate trace. Hein. Si Théétète a raison, alors Protagoras a raison. Si Protagoras a raison, alors Héraclite a raison. Et d'ailleurs, il y en a une quatrième. Si Héraclite a raison, alors des héraclitéens radicaux ont raison. Et c'est là où on commence vraiment à parler du fond, c'est-à-dire quelle ontologie Protagoras est-il obligé de présupposer, selon Platon, pour que sa théorie soit vraie. Et ça, Protagoras n'a peut-être jamais eu l'idée. Hein. Mais selon Platon, et je pense que Platon pensait que c'était... Oui, nécessaire, il doit être héraclitéen. Et ça pose un certain nombre de problèmes.
Mais toute l'ironie de ce texte étant quand même qu'on apprend à la toute fin du texte que Socrate se situe à la veille de son procès. Et que dans ce cas, toute cette discussion sur le relativisme, peut-on s'accorder sur un vrai et sur sans doute du coup des jugements qui seraient unanimes au sein de la cité, s'adresse quand même au moment où il en est dans sa propre vie.
Oui, et le premier des arguments que Socrate a opposé à Protagoras, c'est justement l'argument de la différence entre les hommes. Est-ce que tous sont égaux du point de vue du savoir ? Et donc, s'il n'y a pas de différence entre le sensé et l'insensé, évidemment, alors c'est la démocratie qui peut juger Socrate.
Tu m'as croisé cette fois-là. Que voyais-tu dans mon regard cru? Tu ne voyais que toi là. Que croyais-tu? Que pensais-tu? Que voulais-tu de moi là? Qui pensais-tu tirer entre deux rues, tirer entre deux beaux draps là? La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité, en vérité, la vérité, tu ne la connais pas. La vérité, en vérité.
Merci beaucoup Dimitri Elmure et Fulcrand Tesserin d'être venus vous prêter au jeu de ce duel aujourd'hui. Dimitri Elmure, je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut universitaire de France, et que on va pouvoir lire de vous très bientôt un ouvrage sur la science politique de Platon intitulé « Savoir et gouverner » qui paraîtra chez Vrin. Fulcran Tesserin, vous enseignez la philosophie au lycée Poincaré de Nancy en classe préparatoire et de vous on peut lire un commentaire du Sophiste de Platon paru au PUF en 2012 ainsi que « Langage et images dans l'œuvre de Platon » chez Vrin en 2010. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver Géraldine Mosna-Savoie qui, comme tous les jours, vient vous donner envie de lire un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Roland Barthes au programme aujourd'hui.
Oui, c'est la réédition de Roland Barthes 1915-1980 de Louis-Jean Calvet aux éditions Flammarion. Hier, j'ai parlé d'une anthologie de vies imaginaires, ces vies qu'on raconte et qui sont plus l'occasion de jouer avec les mots entre les lignes de bout de vie plus que l'occasion d'en tirer un savoir. Alors ce n'est pas du tout le cas de cette biographie que Louis-Jean Calvet consacre à Roland Barthes et qui reparaît chez Flammarion. Il n'y a rien d'imaginaire dans ce récit, mais l'occasion d'apprendre le système Barthes. Dans son avant-propos, Calvet le dit, ce livre est bien une biographie. Il décrypte les rapports entre le corps et ce qu'il produit, entre l'œuvre et la vie, l'improduction. Comme disait Barthes, ces petites choses comme les traces d'amour ou les factures qui faisaient que Barthes lui-même avait une certaine réticence pour la biographie. Mais alors là, il y a 2 choses étonnantes dans cet ouvrage. D'abord, la première chose, c'est que derrière le défi de faire une biographie de quelqu'un qui rechignait à ce genre, il y a le fait que Calvet est loin de s'en tenir à un catalogue de petits faits anodins. Il ne cherche pas à faire parler celui pour qui la parole pouvait être fasciste, c'est-à-dire pour qui la parole pouvait forcer à dire. Il ne cherche pas, par exemple, à résoudre les silences de Barthes ou à interpréter tous les signes qui ont marqué sa vie, de l'enfance au succès mondain en passant par les années de maladie. Mais, et c'est là la deuxième chose étonnante, quel mal y aurait-il d'ailleurs à vouloir lire les signes des choses les plus banales, naturelles. Car c'est bien le sens du système Barthes. La plus grande leçon à retenir de lui, nous dit Calvet, c'est que nous vivons dans un monde foisonnant de signes, qu'il s'agisse du pseudo-bon sens ou du steak frites. Calvet retient donc de Barthes son regard, son coup d'œil sur le monde et l'applique à sa vie. Il réalise peut-être de cette manière le vœu de Barthes lui-même, qui voulait qu'on ne retienne de lui que des détails, des inflexions, des biographèmes, disait-il, destinés à toucher des corps futurs.
Une trace d'amour, les factures et le steak frites, c'est vraiment le relativisme du jour. Géraldine, rappelez-nous le titre du livre.
Roland Barthes, 1915-1980 de Louis-Jean Calvet, c'est aux éditions Flammarion.
Merci beaucoup, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée au duel de philosophes. Demain, je recevrai Florence Camex et Gilda Salmon pour le 3e duel, Sartre contre Lévi-Strauss, c'est-à-dire l'existentialisme contre le structuralisme, tout un programme. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales concernant l'émission du jour et puis surtout vous pourrez la podcaster, la télécharger afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins de la Connaissance où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour.